France Culture, les matins d'été, Guillaume Erner.
Grand coup de froid sur l'économie mondiale, c'est la presse qui le dit, qui le redoute dans l'Humanité par exemple. À la veille du G7 de Biarritz, écrit l'Humanité, les signaux les plus alarmants s'accumulent sur la montée des risques de récession en Europe et aux États-Unis, alors que nombre de pays émergents sont d'ores et déjà frappés de plein fouet par une crise gravissime. Alors, s'agit-il d'une réalité ou bien s'agit-il de Cassandre, sachant que bien souvent les prévisions mauvaises en économie ont toujours une chance à moyen terme de se révéler exacte. On va en parler avec deux économistes, Sébastien Jean, directeur du CEPI, Centre d'études prospectives et d'information internationale, et puis Dany Lang, enseignant-chercheur économiste, membre des économistes atterrés. Bonjour à tous les deux. Dany Lang, a-t-on raison d'être inquiet ?
Alors, à mon sens, je fais partie de ces économistes qui tiraient la sonnette d'alerte dès l'année dernière pour des raisons assez différentes de celles qui sont aujourd'hui mises en avant. Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont dans le mauvais sens. Rappelons qu'on parle d'une récession lorsqu'on a deux trimestres successifs de croissance négative. À mon sens, effectivement, on a quelques signaux, et en particulier le fait que la courbe des taux s'inverse aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en gros, on paye sur les bons du Trésor américain, on paye moins cher sur les bons du Trésor à 10 ans que sur les bons du Trésor à 2 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été annonciateur de la fameuse crise des subprimes, mais ça ne suffit pas. À mon sens, on a un vrai problème sur tout ce qui est dette privée. Et c'est un indicateur qui est très très peu regardé par les économistes du courant dominant, et je pense qu'on y revient.
Dette privée, ça veut dire que les ménages
et les entreprises ont un taux d'endettement et une dynamique d'endettement dans un certain nombre de pays, dont la Belgique, la France, le Danemark, qui me paraît extrêmement préoccupante.
Les États-Unis également aussi.
Moins aux États-Unis maintenant. Il faut rappeler qu'avant la crise des subprimes, on avait un taux de croissance de la dette privée qui était de 25% par an aux États-Unis. Aujourd'hui, on est autour de 6-7%, donc je suis moins inquiet sur les États-Unis, même s'il y a des éléments comme par exemple la dette étudiante ou le retour des subprimes, en particulier sur les bagnoles Uber, qui pourraient faire l'objet d'inquiétudes.
La dette étudiante, il faut rappeler que celle-ci atteint aujourd'hui des montants colossaux aux États-Unis, puisque les étudiants empruntent plus cher que l'encours des cartes de crédit.
Exactement. Et les étudiants payent très cher pour leurs études. Par exemple, à la New School à New York, c'est de l'ordre de 40 000 dollars par an, juste les frais d'inscription. Dans d'autres universités encore plus prestigieuses, vous avez 75 000, 80 000 dollars par an. Bon, voilà. Donc forcément, on commence endetté et souvent, on le reste jusqu'à sa retraite.
Sébastien Jean, votre point de vue, vous êtes directeur du CEPI, vous considérez qu'il y a un ralentissement sous haute tension, cette croissance, elle est de plus en plus faible. Quelles peuvent être les conséquences de ce ralentissement selon vous ?
Alors, le ralentissement qu'on constate actuellement, d'une part, il est simultané dans beaucoup des grandes économies du monde, et d'autre part, il est effectivement source d'inquiétude parce qu'il arrive dans un contexte de grande fragilité. Il arrive aussi dans un contexte qu'il faut sans doute rappeler, qui était celui de la tentative de sortie des mesures extraordinaires qu'on avait prise pour compenser la crise économique et financière de 2008-2009. À la suite de ça, il y a eu notamment des politiques monétaires dites non conventionnelles. On a mis tous les taux d'intérêt à zéro. On a fait mener de grands programmes de rachat d'actifs par les banques centrales également. Par essence, c'était des politiques qui avaient vocation à être extraordinaires, à être temporaires. Et évidemment, du coup, la question se pose de savoir quand est-ce qu'on arrête ces politiques temporaires, hein. Quand est-ce qu'on normalise, qu'on revient à une situation durable? C'est ce qu'avait amorcé la Fed, significativement depuis 2015, et c'est ce que ça prêtait à, ce qu'avait commencé à amorcer la BCE, mais seulement amorcé. Or, ce ralentissement finalement arrive et met fin à cette normalisation avant qu'elle se soit véritablement déployée. Le résultat, c'est que aujourd'hui, on arrive avec une menace de récession, alors même qu'on a très peu de marge de manœuvre pour y apporter des réponses en termes de politique économique. Il faut rappeler que...
Est-ce qu'il est possible d'interrompre?
Le taux d'intérêt de la réserve fédérale américaine en 2007 était à 5,25%, hein, ce qui laissait une marge pour le diminuer d'autant. Aujourd'hui, il est entre 2 et 2,25%. Donc ça laisse très peu de marge de manœuvre pour le diminuer en cas de récession. Et en Europe, il est à zéro.
Danny Lang, des économistes atterrés.
Oui, non, je suis assez d'accord sur ce que vous avez dit concernant la politique monétaire et les marges de manœuvre. Ceci étant dit, je ne suis pas surpris qu'on en soit arrivé là. Et ça n'a rien à voir avec la guerre commerciale que se livrent actuellement M. Trump et la Chine, même si ça y contribue. Ça a à voir aussi avec le fait qu'on a eu des politiques monétaires extrêmement accommodantes d'un côté et de l'autre côté des pays qui ont mis en œuvre des politiques budgétaires restrictives dans un contexte où on aurait dû avoir des politiques monétaires expansionnistes, en particulier en Europe. Donc je pense que maintenant, si on veut vraiment éviter cette récession, il faut changer de politique budgétaire et arrêter d'appuyer sur le frein au moment même où on a besoin d'appuyer sur l'accélérateur.
Alors attendez, parce que justement, puisque vous êtes tous les deux plutôt pessimistes dans des registres différents, moi je vais essayer de jouer l'optimiste. A priori, lorsqu'on emprunte pas cher, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par exemple, l'État français va économiser 2 milliards d'euros. On n'arrête pas de parler de dette. Bah, bonne nouvelle. Danny Lang, aujourd'hui, on économise 2 milliards d'euros sur les intérêts de nos dettes. Pourquoi faudrait-il considérer que la situation économique est mauvaise ?
Moi, je pense effectivement que c'est une bonne nouvelle. Et justement, je pense qu'on devrait profiter de ces taux d'intérêt extrêmement faibles, voire négatifs pour certains pays, pour relancer la conjoncture, plutôt que de continuer ces politiques d'austérité absurdes qui ne vont que la détériorer. Donc, à mon sens, on devrait
des politiques
en profiter, par exemple,
d'austérité, surtout si qui ont moins d'intérêt dès lors que les taux d'intérêt sont très bas.
Qui n'ont aucun intérêt, qui sont contre-productives et qui ne font que détériorer la conjoncture à un moment même où on devrait prendre au sérieux la transition écologique et investir massivement dans celle-ci.
Et oui, Sébastien Jean, il faut expliquer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bons du Trésor. Donc lorsqu'on emprunte ou lorsqu'on prête de l'argent aux États même, on a des taux d'intérêt négatifs, ce qui est un peu conceptuellement compliqué. Il faut l'expliquer aux auditeurs. Et vous allez nous dire, après l'avoir expliqué, si c'est pour vous une bonne ou une mauvaise nouvelle.
Oui, bon, les taux d'intérêt, ils sont à zéro sur les taux d'intérêt directeurs pour les principales banques centrales. Ils sont négatifs sur les dépôts de liquidités des banques.
Alors attendez, parce qu'il faut expliquer ce que ça veut dire.
Absolument. Si les banques veulent déposer des liquidités auprès de la banque centrale, elles s'attendaient précédemment, historiquement, à être rémunérées pour ça. Elles leur prêtaient de l'argent. Aujourd'hui, la Banque centrale leur demande de payer pour pouvoir déposer ces liquidités, les mettre en sécurité.
C'est ça. Alors la sécurité, c'est lié notamment à 2008. Et là aussi, il faut expliquer pourquoi, Sébastien Jean.
C'est effectivement le symptôme d'une recherche d'actifs sûrs, hein, d'actifs qui ne soient pas soumis, disons, au risque de contagion d'une crise financière, par exemple. Et alors, il y a des raisons pour ça qui sont, d'une part, réglementaires. Hein. Mm-hmm. On demande effectivement aux établissements financiers d'avoir des actifs sûrs et on comptabilise ce qu'ils ont comme actifs sûrs. Et puis, il y a une raison aussi qui est la recherche de sécurité, en effet. Et là, j'en viens justement à l'interprétation de ces taux d'intérêt nuls ou faibles. C'est un symptôme aussi, en grande partie, mais c'est aussi une tentative de médication, hein. C'est-à-dire que c'est la réponse qui a été apportée par les politiques monétaires à la faiblesse de l'activité, à la faiblesse de la demande, pour essayer de la relancer.
Et oui, c'est très bien, puisque je joue toujours aux optimistes, Sébastien Jean. Si les taux d'intérêt sont négatifs, cela incite les ménages, les entreprises à dépenser. C'est une bonne manière d'euthanasier les rentiers, comme le disait l'économiste Keynes. Donc finalement, pourquoi s'en faire ?
On peut retourner la logique aussi. Si les taux d'intérêt sont nuls ou négatifs aujourd'hui, c'est parce qu'il apparaît que les principales économies du monde sont incapables d'atteindre leurs objectifs de croissance sans avoir des taux d'intérêt extrêmement faibles et, de ce fait, un gonflement du crédit et de l'endettement extrêmement rapide. On est arrivé aujourd'hui à un niveau d'endettement dans l'économie mondiale sans précédent historique. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce qu'on avait cru être des réponses extraordinaires, une anomalie temporaire dans l'économie mondiale à la suite de la crise, n'est pas en train de devenir un régime permanent.
Alors, continuons, Danny Lang. On pourrait imaginer aussi que cette situation qui est un peu anormale, vous l'avez dit, l'argent est pas cher, il y a des taux d'intérêt négatifs, pourrait se poursuivre parce que les gains de productivité sont énorme. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'activités qui se font avec de moins en moins de main-d'œuvre. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ?
Alors, les gains de productivité ont quand même ralenti, paradoxalement, malgré l'informatique, malgré tout ce qui s'est passé ces dernières années. On constate un ralentissement des gains de productivité un peu partout. Alors, on peut l'expliquer ça de différentes manières, mais une manière de l'expliquer, c'est aussi la stagnation des salaires. Parce que, évidemment, quand votre salaire stagne, vous êtes moins productif, vous êtes moins motivé. C'est quelque chose qui avait déjà été analysé en son temps par l'économiste qu'on appelle Webb. Personnellement, je regarderai pas de ce côté-là. Vraiment, je regarderai du côté de la dette dont on a parlé tout à l'heure, et en particulier de l'évolution de la dette privée. Et effectivement, on est aujourd'hui à des niveaux qui n'ont jamais été constatés historiquement. C'est la dette privée qui nous a mis quand même en 2007-2008 dans une situation extrêmement compliquée au plan mondial. On a un certain nombre de pays où la dynamique de la dette privée, enfin où le taux de croissance de la dette privée est supérieur au taux de croissance de la richesse. Donc ça veut dire que ces pays vont rencontrer à un moment un problème de dettes qui ne sont pas remboursées. Ils devront faire face à ça. Et effectivement, les politiques monétaires n'ont plus de marge de manœuvre parce qu'on est allé assez bas dans un certain nombre de pays, parce qu'on a des taux négatifs, effectivement, sur les dépôts. Donc, il faudrait que la politique budgétaire prenne le relais, ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre de pays européens.
Alors ça, c'est l'aspect, on l'a compris, de l'endettement, de la manière dont les ménages, les entreprises peuvent se financer ou se refinancer. Puis il y a l'autre aspect qui est extrêmement important et qui suscite beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui, c'est le commerce mondial. Et on voit que ce commerce mondial, Sébastien Jean, lui, il a tendance plutôt à marquer le pas avec un prix des matières premières qui fluctue. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose.
Oui, c'est-à-dire qu'il est à la fois marqué par un manque de tonus et une tension trop haute, hein, une trop forte tension et contradiction. Il faut d'abord souligner que le commerce international n'a jamais retrouvé depuis la crise le taux de croissance qu'il avait précédemment. En moyenne, il croît à la même vitesse que l'activité au niveau mondial, simplement il est beaucoup plus cyclique. Et c'est pourquoi le ralentissement que l'on constate aujourd'hui, avant d'être lié à des questions de crise commerciale, il est avant tout lié au ralentissement de l'activité, à commencer par la Chine d'ailleurs, depuis déjà un an et demi, qui est un ralentissement structurel, mais un ralentissement de l'activité manufacturière, et ça a beaucoup pesé sur l'évolution du commerce international. Donc c'est ça qui a été le premier déterminant, mais aujourd'hui, évidemment, c'est accentué par les tensions commerciales, liées en particulier à la politique commerciale de l'administration américaine, de Donald Trump, aux tensions en particulier avec la Chine, mais pas seulement, d'ailleurs il y a aussi des menaces sur les États-Unis. Et au fond, ce qui paraît peut-être un peu paradoxal, c'est que l'impact de cette crise commerciale n'est pas principalement lié aux taxes douanières qui sont appliquées, mais plutôt à l'incertitude que cela crée. C'est-à-dire que pour les entreprises, ça crée un contexte dans lequel il est un peu finalement prématuré d'investir avant de savoir à quoi s'en tenir. Il y a trop d'incertitudes. Est-ce que les chaînes de production ne vont pas, d'approvisionnement ne vont pas être complètement désorganisées par cette guerre commerciale? Est-ce qu'il va pas y avoir des nouveaux droits de douane, etc. Tout ça retarde l'investissement. On le constate déjà dans beaucoup de pays, une baisse forte de l'investissement.
Et là, on voit évidemment que cela est renforcé encore par le Brexit. Il y a un certain nombre d'incertitudes et peut-être des anticipations. Les acteurs sur les différents marchés internationaux redoutent que la situation empire, et c'est ce qui peut faire empirer la situation. Votre point de vue à ce sujet, Danny Lang?
Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être développé. Effectivement, vous avez déjà le lien de causalité ne va pas des échanges mondiaux vers la croissance, mais de la croissance vers les échanges mondiaux. L'incertitude contribue effectivement au fait que l'investissement a tendance à se tasser. Et vous parliez tout à l'heure de l'économiste Keynes. Ben justement, Keynes et Kalecki et d'autres disaient que dans ces cas-là, c'est à la dépense publique de prendre le relais en bas de cycle. Et c'est effectivement, je pense que c'est ce qu'on devrait faire aujourd'hui alors qu'on ne le fait pas. Mais on devrait remettre de la certitude. pour jouer sur les esprits animaux, sur les anticipations des entrepreneurs.
Les esprits animaux, il faut expliquer
ce que c'est. Oui, c'est l'état des anticipations des entrepreneurs. Donc pour jouer sur, pour effectivement essayer
de... C'est la manière en fait dont ceux-ci envisagent l'avenir.
Exactement. Donc il faut remettre un peu de certitude là où Monsieur Trump, le Brexit et un ensemble de choses créent de l'incertitude. Et il faudrait surtout qu'à un moment où l'investissement privé commence à devenir atone, les dépenses publiques prennent le relais pour éviter qu'on entre dans une récession, voire une nouvelle crise mondiale, ce que je redoute.
Cela dit, maintenant que l'on a effectivement l'économie chinoise qui ralentit, l'autre économie importante, je veux dire l'économie américaine, on a l'habitude de se moquer de Donald Trump, on l'a fait tout à l'heure, et face à sa proposition de racheter le Groenland, mais on voit, j'ai par exemple The Economist sous les yeux, l'économie américaine se porte bien malgré quelques signes de ralentissement, et finalement, la Trump économie, jusqu'ici en tout cas, est-ce de sa responsabilité ou pas, vous allez me le dire Sébastien Jean, mais en tout cas, l'économie américaine affiche des résultats impressionnants.
Oui, je suis tenté de dire, jusqu'ici, tout va bien, hein, en référence à la chute. Bon, il faut quand même voir la fin. C'est-à-dire que Donald Trump a hérité à son arrivée en fonction d'une économie américaine en bonne santé, en bonne forme, avec un bon dynamisme, qui avait finalement bien récupéré de la crise. Il est arrivé aussi dans un contexte où l'économie américaine, d'après les estimations du FMI par exemple, était déjà à son potentiel de croissance, c'est-à-dire qu'elle risquait, elle était à la limite de la surchauffe selon certaines estimations. C'est pas évident à estimer, c'est justement une partie du problème aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait là-dessus ? Notamment la réforme fiscale de décembre 2017, qui a été un gros coup d'accélérateur. Un gros coup d'accélérateur.
Cette réforme fiscale, il faut rappeler en quoi elle consiste.
Cette réforme fiscale, elle a en particulier consisté en des coupes budgétaires très importantes de l'ordre de 1500 milliards de dollars sur 10 ans qui ont principalement bénéficié aux riches aux États-Unis, hein, aux entreprises et aux plus riches contribuables.
Et là, semble-t-il, il veut encore aller un peu plus loin.
La question se pose parce que, comme d'habitude, avec l'administration Trump, il y a des signaux absolument contradictoires qui ont été donnés pas plus tard qu'hier sur le fait qu'il serait éventuellement en train d'étudier une baisse de taxes sur les salaires. Donc on ne sait pas ce qu'il en est. Mais on est dans une situation du coup aujourd'hui où les États-Unis ont un déficit budgétaire de près de 5% alors que l'économie est en bonne forme. Et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Quelles sont les marges de manœuvre pour répondre à une récession si jamais elle se matérialise? On voit bien qu'elles vont être extrêmement faibles.
En fait, l'inquiétude d'Annie Lang, c'est que Trump, pour le dire de manière un peu sommaire, Trump n'a plus grand-chose sous le pied pour relancer l'économie si celle-ci calait.
Moi, je pense au contraire qu'il a la monnaie mondiale de référence, donc il a encore un peu de marge de manœuvre.
Alors, expliquez-nous comment ça pourrait justement se dérouler, ça.
Eh bien, on a vu, par exemple, au moment de la crise de 2007-2008, qui est partie des États-Unis, que massivement, les capitaux ont afflué vers les bons du Trésor américain, parce qu'ils sont considérés comme des actifs sûrs. Donc, à mon avis, Trump a des marges de manœuvre, mais qu'il n'utilisera pas. L'économie américaine se porte bien si on prend les grands indicateurs habituels, la croissance, le chômage, etc. Mais il faut quand même se rendre compte que c'est une économie qui n'est pas du tout basée sur quelque chose de sain. L'emploi, c'est de l'emploi extrêmement précaire, en grande partie celui qui a été créé ces dernières années. Les inégalités sont absolument colossales. Donc il y a beaucoup de marge de manœuvre pour améliorer les choses en termes d'égalité de revenus et d'égalité de salaire.
Ça, je pense pas que ce soit dans son programme.
Non, pas vraiment. Mais il y a quand même des marges de manœuvre pour améliorer les choses de ce point de vue-là. Et justement, pour compter sur le fait que les gens puissent se baser sur leurs revenus et leurs salaires plutôt que d'aller toujours s'endetter jusqu'à la retraite, jusqu'à la mort, en fait. Donc, il y a beaucoup de marges de manœuvre de ce point de vue-là. Il a le dollar. Il a la possibilité toujours de mener une autre politique en matière budgétaire. Donc, de relancer les choses par un beaucoup de pousses budgétaires, comme l'avait fait Monsieur Obama à son arrivée au pouvoir, et Monsieur Bush d'ailleurs à la fin de son mandat avec le plan Paulson.
D'un côté, cette économie qui est parfois qualifiée d'économie diabolique, où les ménages et les entreprises ont la faculté de s'endetter, puisque aujourd'hui c'est le cas. Alors on tire des sonnettes d'alarme, et j'en ai vu par exemple en ce qui concernait la France, avec un endettement des ménages de plus en plus important en matière immobilière et en matière également de crédit à la consommation. Est-ce que ça n'est pas aussi une bonne chose, tout simplement parce que ça permet de soutenir l'économie, parce que finalement, eh bien, on a une manière de contrebalancer une hausse particulièrement faible des salaires, Sébastien Jean?
Ça fait partie des débats importants aujourd'hui, c'est-à-dire que à partir du moment où les taux d'intérêt sont déjà à zéro, l'efficacité d'un assouplissement de la politique monétaire aujourd'hui, on présume qu'elle va être relativement faible. Ça pose la question de l'utilisation de la politique budgétaire. Ce qui peut paraître paradoxal dans la mesure où, je l'ai rappelé tout à l'heure, l'endettement de l'économie mondiale n'a jamais été aussi élevé. Et c'est le cas en France notamment, il y a un endettement des ménages et des entreprises également.
Mais est-ce que c'est une mauvaise chose l'endettement si vous avez des actifs derrière?
Voilà, ça repose cette question sous un jour nouveau. En particulier dans la mesure où...
Il faut juste expliquer peut-être en un mot, Sébastien Jean, si j'achète quelque chose avec de la dette, quelque chose de substantiel, eh bien dans ce cas-là, cette dette n'est pas volatilisée dans l'atmosphère.
Absolument. Si je me crée un actif qui a une valeur correspondante, bon, j'ai simplement augmenté la taille de mon bilan, mais d'une façon équilibrée entre l'actif et le passif, donc ça n'est pas nécessairement un problème. Maintenant, l'endettement des États pose une question plus large, qui est celle de sa soutenabilité dans le temps. Là, on revient à la question des taux d'intérêt. Si on suppose que les taux d'intérêt sont durablement bas, à ce moment-là, on doit avoir différemment cette contrainte intertemporelle.
On se retrouve dans quelques minutes. Danny Lang, enseignant-chercheur, économiste, membre des économistes atterrés, Sébastien Jean, directeur du CEPI, Centre d'études prospectives et d'information internationale. La suite de ces matins, on va continuer d'évoquer le monde. Alors, le monde économique, puisqu'on sera en compagnie de Danny Lang, économiste atterré, Sébastien Jean, qui dirige le CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information. Puis on parlera du monde intérieur et extérieur d'Olivier Rollin, le romancier, publie Extérieur Monde, c'est chez Gallimard. Et puis le journal de la culture avec vous, Natacha Triou. Bonjour Natacha. Dans votre journal, vous allez nous parler de l'inauguration d'un nouveau musée d'histoire, c'est à Paris.
Oui, le musée de la Libération de Paris ouvre dimanche, je vous ferai la visite.
Dans quelques instants. En attendant, il est 8h15 sur France Culture.
Paysage sonore, field recording. Dès que l'homme a pu enregistrer les sons de la nature, il s'est mis à l'affût. Ethnomusicologues, audionaturalistes ont réalisé de précieux herbiers sonores dont certains spécimens ont disparu de la surface de la Terre. Nature, mais qu'est-ce que tu nous chantes? Une série musicale de Matteo Caranta du 19 au 23 août à 15h et sur franceculture.fr en partenariat avec Radia. France Culture, les matins d'été, Guillaume Erner.
Va-t-on vers un grand coup de froid sur l'économie mondiale, puisqu'à la veille du G7 de Biarritz, il y a un certain nombre de signaux que d'aucuns qualifieraient d'alarmants, avec une montée de risque de récession en Europe, aux États-Unis, avec des pays émergents qui sont d'ores et déjà touché par la crise. Et pour en parler, je suis en compagnie de Sébastien Jean, directeur du CEPI, Centre d'études prospectives et d'information internationale, et de Danny Lang, enseignant, chercheur, économiste, membre des économistes atterrés. On le rappelait, Danny Lang, et il y a aujourd'hui une capacité pour les ménages et les entreprises de s'endetter à bas coût, puisque les taux sont très bas, et cela pourrait être considéré comme étant une bonne nouvelle.
Oui, et dans l'absolu, d'ailleurs, pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure par mon collègue, avec quoi je suis d'accord, dans l'absolu, l'endettement n'a rien de mauvais. La question n'est pas de savoir si on va interdire à des entreprises de financer leurs projets ou à des ménages d'acheter leur logement ou d'aller isoler leur maison à un moment où on doit faire la transition écologique. Donc, en soi, l'endettement n'a rien de mauvais. Là où ça devient malsain, c'est quand on base complètement nos économies soit sur un endettement massif des ménages, justement pour éviter d'augmenter les salaires et éviter d'augmenter le pouvoir d'achat, soit on les rend dépendantes, comme l'ont fait l'Allemagne, soit on rend l'économie dépendante de la dette, soit on rend l'économie dépendante des exportations. Et on a vu ça dans les années 2000, et on est en train de reproduire les mêmes erreurs, c'est-à-dire plutôt que de miser sur la demande interne, en particulier sur la dépense publique, sur la consommation, on mise sur l'endettement, le gonflement de l'endettement, et on mise sur les exportations pour tirer l'économie. Lorsqu'on mise sur ces deux choses-là, on n'entre pas dans une stratégie de long terme.
Bon, mais alors, là aussi, ce que l'on pourrait vous rétorquer, Danny Lang, c'est que cette crise de 2007-2008, elle est née de l'insolvabilité de ménages américains qui avaient de lourdes dettes immobilières par rapport à leurs revenus.
Oui.
Dans ces conditions, est-ce qu'on n'est pas face à la possibilité de revivre le même scénario?
Justement, c'est pour ça que les niveaux de dette privée par rapport au PIB et les taux de croissance de dette privée par rapport au taux de croissance du PIB dans un certain nombre de pays, quand vous combinez les deux, me paraissent assez alarmants. Et vous pouvez vous référer pour cela à l'article que j'avais écrit avec Steve Kinn dans Libération en mai 2018, où on pointait un certain nombre de pays. Depuis, la France a rejoint le club de ces pays à risque. Donc Steve Kinn, qui faut-il peut-être le rappeler, est l'un des économistes qui avait le mieux prédit la crise des subprimes en 2006.
Le pourcentage des dettes par rapport à la richesse d'un pays, c'est une chose.
Oui,
poser problème, c'est avant tout la solvabilité des ménages.
Oui, mais c'est ça. Mais c'est un indicateur de solvabilité. C'est-à-dire que le PIB, c'est un indicateur de revenus, puisque c'est aussi le revenu national. Et quand la dette privée est beaucoup plus élevée que le PIB, ça veut dire qu'à un moment, il y a un certain nombre d'entreprises et de ménages qui n'arriveront pas à rembourser.
Sébastien Jean, qu'est-ce qui va se passer en France? On a l'impression qu'il y a un certain nombre de signaux qui sont en décalage par rapport à ce qu'on vient d'évoquer. Le chômage diminuerait, et il y aurait une certaine forme de reprise, d'optimisme. Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est réel, d'abord, selon vous?
Conjoncture dans l'immédiat en France, elle avait été marquée par une sorte de trou d'air, hein, au moment du mouvement des gilets jaunes. Il y a eu en particulier une baisse de la consommation à ce moment-là, qui a un effet de rebond. Après, je pense que c'est une réalité, effectivement. Pour moi, la nouvelle peut-être la plus frappante de ces dernières semaines, elle est venue d'Outre-Rhin. C'est-à-dire de très mauvaises nouvelles de conjoncture, d'état de l'économie en Allemagne, pour laquelle la Bundesbank a annoncé qu'elle aurait probablement une baisse de l'activité au troisième trimestre. Ça avait été déjà le cas au deuxième, donc elle entrerait techniquement en récession. Pour laquelle, surtout, la production automobile a baissé de 15%, soit la même chute proportionnellement qu'au moment de la crise économique et financière de 2008-2009. Hein, donc vraiment une dégringolade qui, paradoxalement, est aussi largement liée à la dégradation du commerce extérieur. C'est-à-dire, je dis paradoxalement, parce que finalement, cette crise commerciale dont on parle beaucoup entre la Chine et les États-Unis, on a l'impression que le plus frappé, c'est l'Allemagne, parce qu'elle est extrêmement dépendante des marchés d'exportation. C'est une économie très ouverte. C'est une dimension.
Alors c'est une bonne chose pour la France, puisqu'on n'arrête pas d'expliquer qu'on n'exporte pas assez. Donc,
non, c'est une très mauvaise chose pour la France, parce que nous sommes très liés au sein des économies européennes, et évidemment, ce qui est une mauvaise nouvelle économique pour l'Allemagne rejaillit sur la France, parce que c'est notre premier marché. Il faut dire aussi qu'une autre dimension, il faut pas limiter ça non plus complètement au commerce international, une autre dimension, c'est la transition dans laquelle l'industrie automobile est engagée et qui est une transition à marche forcée et qui est très, disons, difficile à mener pour cette industrie si importante pour l'Allemagne. Tout ça, ça crée un environnement assez particulier et ça remet, sur le devant de la scène la question autour de la politique budgétaire allemande, le Schwarzenegger, hein, cette règle de déficit budgétaire zéro en Allemagne. Est-ce qu'il faut continuer à appliquer ça? Et on voit que le débat ressurgit et qu'il y a même une véritable probabilité aujourd'hui que le gouvernement allemand annonce des mesures de relance budgétaire, peut-être de programmes d'investissement, parce que le le revers, disons, de la médaille, c'est toutes les interrogations qu'on a autour du niveau d'investissement en Allemagne, qui serait insuffisant, notamment investissement dans les infrastructures, éventuellement aussi investissement pour préparer l'adaptation au changement climatique, enfin, ou plutôt la prévention.
Oui, Dany Lang, sur la France d'abord, les chiffres du chômage diminuent?
Alors, les chiffres du chômage, pour ceux qui seraient intéressés par ça, moi, je pense que c'est assez artificiel. Et je vous renvoie un article, un très bon article à ce propos, qui a été écrit par mon collègue et ami Guillaume Duval d'Alternative Économique, qui explique que cette baisse du chômage est très largement artificielle et très largement liée, d'ailleurs, à des emplois qui sont des emplois de court terme et de très mauvaise qualité. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit pour l'Allemagne. Et pour compléter, d'ailleurs, ça illustre bien ce que je dis. Disais tout à l'heure, les Allemands ont tout misé sur les exportations. Or, forcément, lorsqu'on mise tout sur les exportations, en particulier de voitures et de machines-outils vers la Chine, eh bien, quand l'économie chinoise est moins vigoureuse, parce qu'il faut rappeler qu'ils ont encore des taux de croissance autour de 5%, ben, forcément, cela impacte la croissance allemande. Et effectivement, il y a même certaines composantes du patronat aujourd'hui qui finissent par dire ce que les économistes atterrés disent depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire que l'Allemagne devrait faire prendre le relais de sa demande par la demande interne, en particulier par l'investissement public.
C'est la convergence des luttes entre les économistes atterrés et le patronat allemand.
Je n'irai pas jusqu'à dire cela, mais il faut rappeler qu'il y a aussi une raison pragmatique à ça. En Allemagne, vous avez la moitié des ponts qui sont au bord de l'effondrement. Donc, si les Allemands ne mènent pas les investissements nécessaires, ils vont avoir une catastrophe ferroviaire ou routière majeure.
Il semblerait qu'en France, on soit pas mal aussi à cet égard en matière de...
Oui, mais c'est ça, mais parce qu'on serre la dépense publique à un moment où on devrait, au contraire, la permettre. Voilà. On a tendance en France, comme dans d'autres pays, à serrer la dépense publique à un moment où, au contraire, il faudrait l'augmenter, et à augmenter la dépense publique à un moment, justement, où il faudrait profiter des marges de manœuvre qu'on a pour faire diminuer l'endettement public.
Mais Sébastien Jean, on a tendance à dire qu'en France, on a une économie contracyclique, c'est-à-dire du fait du système redistributif. Lorsque c'est la crise partout ailleurs, ben, elle serait moins forte en France. Et à contrario, lorsque c'est la reprise, ben, elle serait moins vigoureuse chez nous. Est-ce que ça veut dire que si il y a beaucoup de nuages dans l'économie mondiale, en France, on pourrait peut-être passer au travers?
On verra. C'est vrai que habituellement, l'économie française vit ses fluctuations de manière largement atténuée. Ce que je disais tout à l'heure sur la dégradation de la conjoncture très forte en Allemagne n'a pas de parallèle en France aujourd'hui, donc c'en est une illustration. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas faire trop vite de parallèle complet entre la situation allemande et française en termes budgétaires en particulier. Nous ne sommes pas du tout dans le même contexte. Le fait de demander à l'Allemagne de faire une relance en particulier par l'investissement public, c'est quelque chose qui est très largement répandu, surtout en dehors d'Allemagne, hein, mais et depuis des années. Donc, parce que il y a un véritable déséquilibre, parce que également, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où il y a très peu de marge de manœuvre en termes de politique monétaire, on se tourne vers la politique budgétaire et on se tourne vers les pays où il y a véritablement une marge de manœuvre parce qu'il y a un niveau d'endettement et de déficit budgétaire qui est faible. Et le pays par excellence où c'est le cas, c'est en Europe, c'est l'Allemagne. On pourrait citer les Pays-Bas également.
Et donc là, à cet égard, il y a, selon vous, malgré tout, des raisons d'être inquiet.
Il y a des raisons d'être inquiet dans la mesure où il y a un vrai retournement de conjoncture qui s'annonce. Et puis après, il y a une question plus fondamentale qui est de savoir comment est-ce que on conçoit ce problème. La réponse de beaucoup d'Allemands, c'est de dire mais vous nous demandez d'investir alors que nous sommes une économie vieillissante. Quand on s'apprête à vieillir, eh bien on épargne, on n'investit pas. Donc voilà, est-ce qu'il faut avoir cette attitude redoutée aussi un trop fort gonflement des dettes publiques, ou est-ce que au contraire il faut se dire il faut préparer l'avenir dans les infrastructures, dans la lutte contre le changement climatique.
Justement, l'investissement et les gains de productivité, Dany Lang, parce que il y a un discours qui est un discours là aussi de Cassandre sur l'avenir de l'emploi en disant on va se robotiser de plus en plus, et l'autre discours qui consiste à dire finalement les gains de productivité on les voit pas, et donc il n'y a pas de robotisation effective. Comment trancher entre ces deux discours?
Alors c'est une vieille question que se posent les économistes depuis longtemps. Personnellement, je ne pense pas que les gains de productivité soient un véritable problème pour l'emploi à partir du moment où ils sont correctement distribués entre le capital et le travail. Or, ce qu'on a constaté depuis une trentaine ou une quarantaine d'années maintenant, c'est que les gains de productivité qui sont vus dans les statistiques vont massivement vers le capital et de moins en moins sont de moins en moins redistribués au travail, c'est-à-dire au salaire.
Mais je vais prendre un point de vue radical. Si il n'y a plus de travail, j'ai vu par exemple aux États-Unis un supermarché sans employés.
Oui. Avec en France, ça a été essayé par Carrefour, ça a été un échec. Hein.
Bon, enfin, aux États-Unis,
sans caissière, pardon. Oui.
Aux États-Unis, ça tient pour l'instant, mais lorsqu'on arrive à ce type de solution radicale, est-ce qu'on n'a pas du souci à se faire ?
Non, parce que, à mon sens, on n'a pas de souci à se faire si collectivement on a le courage de décider de créer des emplois dans les secteurs dans lesquels il y a des besoins et ces besoins ne sont pas satisfaits par les mécanismes habituels du marché. Aux États-Unis, ils ont un grand débat sur l'emploi garanti, c'est-à-dire ou ce qu'on appelle aussi l'employeur en dernier ressort, s'est mis en avant dans le débat public, c'est l'idée que l'État ou les collectivités locales doivent créer des emplois pour répondre aux besoins locaux qui sont pas satisfaits par le marché. Je trouve cette idée extrêmement intéressante et c'est une manière de faire face au problème du chômage et au problème des emplois de mauvaise qualité. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on en reparle à une autre occasion.
Avec plaisir. Un mot de conclusion. Sébastien Jean.
Oui, pour moi, ce mouvement ou cette perspective de robotisation, elle pose deux problèmes principaux. Un premier est de savoir si on ne risque pas d'avoir une concentration excessive de la création de richesses entre un nombre limité de mains, parce qu'il y aurait un capital qui serait très concentré, très productif, et puis à côté de ça, une multiplication d'emplois relativement déqualifiés. Le deuxième aspect, c'est gérer la transition, c'est-à-dire que c'est pas un problème d'absence d'emploi, il y a toujours de l'emploi, il y a des besoins immenses en termes de santé, d'accompagnement des personnes âgées, j'en passe, et puis de tout ce qu'il nous reste à inventer, d'éducation, etc. Le problème, simplement, c'est d'arriver à créer de nouveaux emplois et qu'ils soient de valeur à un rythme suffisant pour compenser ceux qui sont détruits.
Merci à tous les deux. Sébastien Jean, vous êtes directeur du CEPI. Dany Lang, vous êtes économiste également et membre des économistes atterrés, tandis qu'un homme qui s'intéresse beaucoup au monde, mais peut-être moins au monde économique, Olivier Rollin, bonjour.
Bonjour.
C'est pas vraiment l'économie, le centre d'extérieur monde, mais en revanche, il est vraiment question du globe et de la manière dont on vit ailleurs. On en parle dans quelques instants. En attendant, il est 8h30 sur France Culture.